pense que pour beaucoup de personnes, la psychiatrie est finalement un enfermement plus qu'un soin. Et que les options thérapeutiques sont assez limitées. Certainement que le manque d'effectifs, certainement que l'état des locaux dans certaines situations ne rend pas la psychiatrie extrêmement attractive.
Assurément, l'image de la psychiatrie française n'est pas flatteuse. On parle de patients négligés, de soignants épuisés, d'étudiants démotivés et de conditions de travail dégradées. En ville, psychologues et psychiatres sont débordés. Et à l'hôpital, où des mouvements de grève avaient déjà affecté de nombreux établissements avant la pandémie, la crise a bien sûr aggravé les difficultés. Un tiers des Français souffrirait désormais de troubles psychiques ou de dépression.
Là, on a beaucoup de situations comme ça, de gens qui envoient des messages à des proches, en ayant pris des médicaments ou pas, en s'étant alcoolisé. Et donc, c'est des proches qui déclenchent des secours au domicile. Et c'est vrai qu'on a une recrudescence de patients suicidaires.
En janvier, le président Macron avait annoncé la tenue d'assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Initialement prévues au début de l'été, elles viennent d'être repoussées au mois de septembre. Une annonce faite lors d'une conférence avec des pédopsychiatres, ce qui n'a rien d'anodin, car ce secteur est particulièrement déshérité. Au point que les parents se trouvent très souvent démunis.
Moi, j'ai dû abandonner mon travail quand même pour m'occuper de mon enfant, puisqu'il n'y a pas d'offre de soins et de lieux adéquats. Et moi, j'aimerais que le gouvernement m'explique pourquoi ces freins, pourquoi on ne met pas d'argent dans la psychiatrie, pourquoi on n'évalue pas ce qu'on fait de l'argent qu'on a mis dans la psychiatrie. Je veux comprendre.
Et pourtant, les soignants se débattent au quotidien pour leurs patients jeunes ou adultes. Comme à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, l'un des plus grands CHU de France, Daniel Messager y est accueilli aux urgences.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
On se trouve devant les urgences de l'hôpital Henri Mondor de Créteil avec un certain nombre d'ambulances qui viennent de passer. On passe la porte et on arrive devant le box des urgences générales. Le docteur Corentin Rabu nous attend. Bonjour.
Bonjour. Corentin Rabu, je suis psychiatre ici à l'hôpital Henri Mondor à Créteil.
Là, on est passé par les urgences générales, mais on arrive sur des urgences de psychiatrie.
Il n'y a pas vraiment d'urgence de psychiatrie délimitée pour l'instant. Les patients s'inscrivent aux urgences. Et nous, notre fonctionnement, c'est que tout patient, sauf urgence comportementale, est évalué d'abord par un médecin non psychiatre.
Même s'il vient pour un motif psy?
Oui.
Pourquoi?
Parce que si le patient il vient pour une agitation, est-ce qu'il a une rechute de schizophrénie? Est-ce qu'il est alcoolisé? Est-ce qu'il a une tumeur cérébrale? Est-ce qu'il a une hyperthyroïdie? Est-ce qu'il est intoxiqué à la cocaïne? En fait, on ne sait pas. Et donc, on a ce fonctionnement où il est examiné d'abord par un médecin non psychiatre qui recueille ses antécédents, qui l'examine sur le plan physique, qui éventuellement prescrit un bilan. Et nous, on est sollicité dans trois quarts des cas à la suite de ça. Quand le patient est très instable dès l'accueil, on essaie de se mobiliser dans le même temps pour essayer d'avoir un avis dans le même temps avec le médecin non psychiatre. Voilà. Souterrains.
La situation se complique quand plusieurs patients agités se présentent. Les docteurs Alexandra Botero et Corentin Rabu y sont régulièrement confrontés.
Je pense que ça arrive au moins trois fois par semaine qu'on soit ponctuellement dans une situation où on a plusieurs patients agités en même temps et qu'on ne sache pas comment faire en même temps. Donc souvent le raisonnement c'est déjà de trouver un espace.
Et vous allez où? Parce que là,
alors voilà.
On revient quand même à...
Voilà, où est-ce qu'on va? Voilà, donc effectivement, où est-ce qu'on va? Alors en général, on va par là. On a des boxes dans lesquelles on peut mettre les gens un peu au calme et sur des brancards éventuellement. C'est-à-dire ce box... Donc là, si on est dans la situation de quelqu'un qui s'agite, on va utiliser un brancard et on va le mettre au calme ici.
Et cette dame là qui est en train de dire qu'elle n'est pas suicidaire justement, est-ce que c'est quelqu'un qui a été vu en médecine générale et que vous n'avez pas encore vu?
Oui, c'est
des patientes pour lesquelles justement il y a, c'est pas clair si c'est psychiatrique ou somatique. Hein. Il y a plusieurs éléments qui interfèrent, notamment une consommation, un mésusage de l'alcool. On freine un petit peu pour pas l'avoir trop vite, pour pas justement fausser l'orientation et faire une erreur d'aiguillage.
Bonjour.
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 Ah, c'est vous. Moi, je suis Mehdi Kelaf, je suis chef des services des urgences de l'hôpital Raymond d'Or. Les patients psychiatriques, c'est pas facile. Hein. En phase aiguë, c'est des patients qui sont difficiles, hein, agités, qui prennent du temps, qui mobilisent beaucoup de personnel, qu'on aimerait ne pas voir finalement hein, pour la plupart des hôpitaux. Hein. Et malheureusement, ils stagnent beaucoup à l'hôpital. Ils ne sont pas accueillis dans de bonnes conditions, même des fois des conditions sécuritaires qui sont vraiment très limites.
Par exemple
Le fait, par exemple, d'attacher des gens plusieurs jours sur un brancard. Voilà.
Aux urgences
Aux urgences de France et de Navarre, hein,
oui.
Il n'y a pas que chez nous.
Ça arrive fréquemment, docteur Rabus, ces contentions
Oui, ça arrive fréquemment. Pourquoi est-ce qu'on contentionne? On contentionne parce que le patient est agité et qu'il présente un risque pour lui-même et un peu pour son environnement immédiat. On est très vigilant sur le fait que la contention soit la plus courte possible. La question qui est plus difficile, c'est la suite. Et si on n'a pas de place en psychiatrie, comment on fait? Le manque de place en aval, probablement, doit participer au fait que la durée des contentions est plus élevée. Et on est amené à faire sortir des patients un peu trop tôt. Et donc le patient qui sort un peu trop tôt, il est fragile et il suffit de peu de choses pour qu'il revienne aux urgences. Et donc on est vite dans un cercle vicieux où les patients attendent longtemps, vont en psychiatrie, sortent trop tôt, reviennent aux urgences où il y a déjà du monde, où voilà, il y a une espèce de cercle vicieux. Le patient qui sort de l'hôpital, s'il attend son rendez-vous de suivi, plus de quelques semaines après sa sortie, ça ne marchera pas. Il reviendra aux urgences.
C'est la préoccupation de l'hôpital en général, la prise en charge rapide des patients. On la retrouve en psychiatrie encore plus accentuée.
Ce qu'on veut dire en premier, c'est la difficulté pour trouver des places en hospitalisation pour les patients qu'on voit aux urgences qui ont besoin d'être hospitalisés. La difficulté première qu'on a, c'est ça, c'est trouver un lit.
Dans l'hôpital, il y en a combien de lits disponibles?
Alors, ici sur le site, on a un petit service de psychiatrie avec 18 lits qui est destiné aux patients qui sont d'accord pour être ici et qui ne présentent pas de troubles graves du comportement. Donc en pratique, c'est surtout destiné aux patients déprimés, plus ou moins sévèrement, plus ou moins compliqués d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide.
Je rebondirai sur ce que dit mon collègue, c'est-à-dire qu'il nous manque en effet des lits d'aval parce qu'on a aussi plus de patients, à la fois des anciens patients, enfin des patients connus qui ont décompensé pendant cette longue crise Covid, et puis des nouveaux, particulièrement des jeunes, des adolescents, des étudiants, des jeunes adultes qui ont été isolés de leur famille, qui ont été isolés du travail, des personnes âgées aussi. Et en fait, on peut difficilement faire un entretien aux urgences actuellement sans parler de la crise Covid. Et voilà. Et donc, on a particulièrement aussi des difficultés pour les adolescents à trouver des places. Les structures sont saturées. Là, j'ai fait le tour ce matin et voilà, c'est très compliqué. Des places de consultation aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc, on parlait des lits d'aval, mais il y a aussi l'aval en consultation pour des gens qui seraient moins sévères et qui auraient besoin d'être revus juste après les urgences, dans la semaine, dans les 10 jours. Et ça, c'est extrêmement compliqué de trouver des places.
Les gens qui se présentent aux urgences, ils présentent quel type de profil? Parce qu'il faut déjà faire la démarche de se déplacer aux urgences ou alors d'être amené par quelqu'un aux urgences. Donc, c'est des profils qui sont déjà quand même assez aigus.
Il y a tout type de situation. Il y a des gens qui vont venir d'eux-mêmes. Et puis, il y a beaucoup d'entre eux qui, par exemple, sont suicidaires. Là, on a beaucoup de situations comme ça, de gens qui envoient des messages à des proches. En ayant pris des médicaments ou pas, en s'étant alcoolisé. Et donc, c'est des proches qui déclenchent les secours au domicile. Et c'est vrai qu'on a une recrudescence de patients suicidaires importante.
Moi, déjà, même si la crise Covid, quelque chose dont il faut parler, on était, depuis des années, en difficulté pour trouver des lits et pour trouver des consultations dans une temporalité qui convienne. En pratique, la personne qui vient aux urgences, Soit effectivement elle vient d'elle-même à un stade relativement précoce parce qu'elle souffre psychiquement, parce qu'elle est triste, parce qu'elle dort pas, parce qu'elle est angoissée. Et dans ce cas-là, on aurait envie de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des alternatives en ville, que ce soit la psychiatrie libérale ou les CMP, les centres de consultation publics? Les deux, que ce soit les psychiatres de ville et les CMP, sont saturés. Donc c'est bouché en amont, les patients n'ont pas pu consulter facilement en ville. Et une fois qu'ils vont mal, c'est bouché en aval, on n'a pas de place pour les adresser.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des hôpitaux qui n'ont plus de psychiatres aux urgences. Et plusieurs hôpitaux autour de chez nous, petit à petit, ont perdu leur équipe de psychiatres, d'infirmiers, et donc ils vont accueillir les patients aux urgences et ensuite les transférer chez nous, à Mondor, pour une évaluation psy. Donc on se retrouve avec une charge plus conséquente aussi.
Alors oui, il faut tout fermer tout le temps. On est assez vigilant, vous savez, les patients peuvent aller et venir, et on ne veut pas qu'ils rentrent dans les bureaux sans nous.
Au sein de l'unité de psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, il y a ce bâtiment dans lequel on va arriver pour voir les médecins et les patients. C'est le bâtiment Albert Chenevier. 4 unités d'hospitalisation, dont 2 unités fermées. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Ce sont ici des patients plus lourds qui restent plus longtemps hospitalisés et qui demandent plus de soins et plus de personnel. On va encore retrouver la problématique du manque de personnel dans cette structure.
Il y a beaucoup de portes, donc ça, je quand on fait les visites, on est en garde, j'ai écouté une fois, c'est au moins 40 tours de clé pour entrer et sortir de chaque unité, s'il y a 2 portes.
Je m'appelle Romain Sayous, je suis médecin psychiatre et j'exerce en tant que chef de clinique dans le service du professeur Antoine Pellissolo et du professeur Marion Le Boyer à Créteil.
Donc on est là dans une unité fermée.
En unité fermée, ce sont surtout des patients hospitalisés sans leur consentement. Ça peut être à la demande d'un tiers ou à la demande du représentant de l'État, notamment quand il y a eu des troubles graves du comportement ou des troubles graves à l'ordre public.
Donc là,
bien sûr, alors je peux vous montrer, alors nous avons cette chambre-là, qui est ce qu'on appelle une chambre d'apaisement. Avec un lit fixé au sol qui permet d'accueillir des patients parfois très agités. Ce lit permet transitoirement, voilà, ça dure le moins longtemps possible, d'appliquer des mesures de contention physique. C'est-à-dire que le patient qui est extrêmement agité, pour éviter qu'il se blesse, pour éviter qu'il nous blesse aussi, on est parfois obligé de le contenir physiquement en maintenant le patient au lit. Et quand il est nécessaire de maintenir cette contention physique, on utilise des sangles, c'est en général assez mal vécu par les patients, donc on associe ça toujours à une mesure de sédation.
Vous voulez passer, monsieur ?
On a fait le point. Maintenant, vous vous occupez de vos affaires, s'il vous plaît.
Par exemple, vous avez rien à faire, monsieur.
Ben, vous allez dans votre chambre.
D'accord ?
À plus tard.
Merci.
Le patient en question, là, que nous venons d'apercevoir, il a beaucoup de mal à se poser. Il a les idées qui vont extrêmement vite, on appelle ça la tachypsychie. Et souvent, il va venir solliciter divers professionnels, là, parce qu'on vient de le voir en entretien, que du coup, il vient me voir. Et ce sont, en général, les mêmes demandes qui reviennent. Il est à la recherche, effectivement, d'activité, de se poser. C'est vrai que les patients se plaignent de s'ennuyer.
Parce que les espaces, même les espaces de déambulation, sont quand même très limités. On voit qu'il y a des couloirs, un espace extérieur, mais fermé, évidemment. Qui n'est pas très grand, c'est évidemment un espace de déambulation très limité pour des patients qui ont du mal à se contenir.
Oui. Certains patients nous disent qu'ils voudraient aller à l'extérieur, aller à la cafétéria par exemple, et nous essayons avec notre équipe soignante au maximum de leur proposer ces activités. En général, ils peuvent être accompagnés par un membre de l'équipe soignante. Quand notre équipe est en effectif suffisant, ce qui est parfois une difficulté. Les principales difficultés que nous avons ici, c'est le nombre de patients à prendre en charge par praticien. Moi, je suis responsable d'unité, mais je suis le seul médecin senior habituellement sur cette unité. Alors, je suis heureusement aidé de 3 internes qui ont...
Mais vous n'êtes pas très âgé quoi que senior, quand même. Vous avez quel âge?
Effectivement, j'ai 32 ans.
Et vous avez sous votre responsabilité combien de patients?
Alors là, dans l'unité, en théorie... 21, en pratique plutôt 23, avec la suroccupation des lits, exceptionnellement 24.
Et en personnel infirmier?
On va dire pas assez. Nous aurions un ou deux infirmiers de plus en permanence. beaucoup de difficultés seraient plus facilement réglables avec quelques soignants de plus qui auraient la possibilité d'accompagner les patients à l'extérieur pour décompresser. L'accompagnement à l'extérieur, c'est à voir comme un soin. Bonjour monsieur.
Bonjour, vous avez mes chaussures.
Vos chaussures, oui, vous pouvez mettre vos chaussures, il n'y a pas de problème.
Vous avez ça à vous ?
Oui, moi, je suis d'accord. Alors, ça, je vous laisse voir avec les membres de l'équipe. Mais je suis d'accord pour qu'on vous les donne. Vous êtes dans la pièce principale du service avec une télévision. Alors, nous avons parfois quelques altercations entre patients quand il s'agit de choisir le programme télé du soir. Bonjour madame.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'accompagner. J'ai le genou qui est déchiré derrière. Alors j'ai mal et je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'accompagner pour marcher.
Oui. Vous avez mal quand vous marchez et vous souhaiteriez un accompagnement. Personne ne peut vous accompagner ?
J'ai peur.
Et vous avez peur aussi un peu. Oui, je comprends.
Qu'est-ce qui peut m'accompagner, docteur ?
Alors, je pense que les membres de l'équipe sont occupés. Je vous invite à aller voir, peut-être dans la pièce à côté, s'ils sont disponibles.
Lui, là ?
Je ne sais pas, je vous laisse aller voir.
Et cette dame, par exemple, elle veut être accompagnée où ? Elle veut juste marcher un peu et...
Voilà, elle nous demande toute la journée à être accompagnée.
Et elle marche pieds nus et...
Alors, c'est pas normal du tout.
Le patient, avant, il demandait ses chaussures aussi.
Le patient qui demandait ses chaussures, il avait des surchaussures en plastique parce qu'il était très peu de temps avant en chambre d'isolement. En chambre d'isolement, les patients, on ne voit qu'au pyjama et à des surchaussures pour justement éviter les lacets des chaussures qui peuvent être dangereux. Avec un lacet de chaussures, on peut tout à fait se stranguler. Et c'est malheureusement, nous avons des patients qui ont ces velléités-là et notre rôle est de les en protéger. Nous sommes dans le parc fumeur qui est accessible aux patients toute la journée.
Mais... Alors, parc, excusez-moi, si je peux permettre, c'est pas très grand comme parc quand même.
Hein.
C'est un espace grillagé et clos.
Et cet espace fumeur, initialement, a été conçu avec des grandes barrières pour limiter les risques de fugue. Nous avons eu, malgré cela, des fugues depuis ce parc fumeur avant l'installation des filets. La mise en place de ces filets permet un accès à cet espace, mais vous en conviendrez, donne l'impression d'un espace ressemblant un peu à une cage.
Un peu.
Voilà. Je pense que pour beaucoup de personnes, la psychiatrie est quelque chose où on a l'idée d'objet d'enfermer les patients et que les options thérapeutiques sont assez limitées. Et finalement, un enfermement plus qu'un soin. Mais certainement que le manque d'effectifs, certainement que l'état des locaux dans certaines situations ne rend pas la psychiatrie extrêmement attractive. Mais la psychiatrie, aujourd'hui, est une spécialité médicale qui se développe énormément avec des approches extrêmement variées et un développement, aujourd'hui, de notre connaissance neurobiologique des maladies psychiques qui est assez spectaculaire et qui n'en est qu'à ses débuts. Et effectivement, une des difficultés que notre équipe a, c'est que beaucoup du temps soignant, en fait, est utilisé à des choses qui ne sont pas forcément de la psychiatrie. Dans la journée, si je compte la proportion de temps où je fais vraiment de la psychiatrie, pendant un quart de mon temps, c'est déjà bien. Malheureusement, beaucoup de temps est pris par l'administratif, les certificats pour les soins sans consentement, par exemple, les demandes de permission qui prennent beaucoup de temps, qui se fait au détriment du temps que nous pouvons passer en entretien avec les patients.
Chef, c'est un micro, chef ?
Oui.
Vous pouvez aller derrière avec le micro, s'il vous plaît ?
D'accord. Je sors.
Interception sur France Inter.
Pas assez de psychiatres de ville, pas assez de lits à l'hôpital, la psychiatrie est bien le parent pauvre de la médecine française. Mais que dire alors de la pédopsychiatrie ? 10% des adolescents français présentent des signes de souffrance psychique. Et pourtant, on forme de moins en moins de pédopsychiatres. Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, explique que le retard de diagnostic atteint 3 ans pour la schizophrénie et peut aller jusqu'à 10 ans pour les troubles bipolaires. deux maladies qui se déclarent souvent entre les âges de 15 et 20 ans.
Bonjour,
je suis Alexandra Bichon. Et Maxime finit sa cigarette, il arrive.
Voilà.
C'est précisément au siège de l'UNAFAM que Daniel Messager va rencontrer des familles touchées par la maladie.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Pérez-Zitvogel, j'ai 28 ans. Je suis moi-même concerné par la bipolarité, j'ai été diagnostiqué en 2015. Et suite à mon premier diagnostic, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui me correspondait, qu'on me proposait à l'extérieur pour aller mieux et aller de l'avant surtout, j'ai donc décidé de créer ma propre structure qui s'appelle la Maison Perchée. C'est la première structure non médicalisée gérée par des malades, pour les malades et aussi pour les proches, parce qu'il y a un vrai manque. Je souhaite à personne de vivre l'enfer que j'ai vécu lors de ma première hospitalisation sous contrainte en France.
C'est votre famille qui avait décidé de cette hospitalisation?
Oui, malheureusement, ma mère, mais d'ailleurs, elle me le dit encore que ça a été la décision la plus dure à prendre de toute sa vie, c'est-à-dire de me mettre sous contrainte. Pour moi, ça a marqué un cran d'arrêt sur tout, quoi, parce que du coup, j'ai dû arrêter mes études. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien, quoi. Et justement, c'est, je remercie le ciel tous les jours parce que j'ai eu la chance, à la différence de la grande majorité des personnes concernées, d'avoir un toit, de quoi manger, d'avoir le soutien de ma famille. C'est pas pour rien qu'il y a 40% des gens qui sont à la rue qui ont un trouble psy, quoi. Et c'est pas juste, quoi.
Et quand vous dites j'ai dû créer une association parce qu'on me proposait rien, ça veut dire que vous estimez que la prise en charge qu'on vous a proposée à l'époque n'était pas satisfaisante?
En fait, on m'a juste filé une pochette surprise à la sortie avec juste une liste de médicaments et rendez-vous chez un psychiatre. C'est tout. Et si seulement à ce moment-là, il y avait eu sur cette liste, en fait, va faire un tour à la Maison Perchée ou quelque chose du genre, quelque chose qui me correspondait, certainement, j'aurais pas passé 2 ans dans ma chambre à me broyer du noir à me demander pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi. J'aurais pas fait une tentative de suicide. Je pense que j'aurais justement eu quelques clés en plus qu'on aurait dû me donner avant que je sois diagnostiqué. C'est, en fait, il faudrait éduquer les gens.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, madame? Vous êtes la maman d'un jeune qui a été diagnostiqué tôt.
Bonjour, oui, je suis Alexandra Bichon. Je suis maman d'un adolescent concerné par la schizophrénie à début très précoce. Il a effectivement été diagnostiqué à l'âge de 13 ans à peu près, un peu moins même. Les troubles sont apparus lors du CM2, en fait, avec un changement assez abrupt de comportement en termes d'agitation, par exemple. J'étais très sollicitée par l'école et ça m'avait mis la puce à l'oreille. Enfin, il y avait des choses, sans pouvoir vraiment mettre de mots dessus, qui commençaient à m'inquiéter. Et lorsque j'ai commencé à demander de l'aide, en fait, je me suis rendu compte que l'expertise parentale sur l'observation de nos propres enfants est très peu accueillie. Je me suis entendue dire que c'était soit une déformation professionnelle de ma part, puisque je suis infirmière de secteur psychiatrique, et que j'étais une maman hyper anxieuse. Sauf que l'entrée en 6e a été une catastrophe. Et très rapidement, mon fils a décroché de l'école, en fait, et a pu exprimer des symptômes de la maladie. Je crois que ce qui a été le plus douloureux avec le recul, c'est pas tant le déclenchement des troubles que le manque d'aide, d'écoute, d'accueil. Et jusqu'où doivent aller les enfants pour montrer à quel point ils ont besoin d'aide? Nous, ça aurait pu être assez dramatique, dans le sens où mon fils était avec des idées suicidaires très fortes. Et il a fallu vraiment taper du poing sur la table pour obtenir une hospitalisation, ce qui nous a pris quand même 5 mois. Et je me dis, moi, j'avais la chance de connaître le milieu médical. J'avais une lecture, étant spécialisée en psychiatrie, qui m'a permis d'aller vite et pas perdre de temps et de pouvoir accueillir la parole de mon enfant. Et je pense que mon enfant en avait quelque part conscience, qu'il pouvait dire les choses. C'est pas la même chance partout. Je veux dire, il y a des familles qui n'auront pas ces possibilités-là. Et je peux vous dire, quand vous découvrez cet univers, faut être très armé quand même. Par exemple, la phrase la plus douloureuse qu'on me dise, c'est « Votre enfant, s'il est dans cet état-là, c'est juste le résultat de toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie. » Mais quelle violence! Quelle violence!
Les familles ne trouveront pas toujours les bonnes réponses en fonction de l'endroit où elles habitent. Des situations qui les amènent, parfois, à prendre de lourdes décisions.
Vous voyez, j'habite à Nantes. Nantes, c'est pas un désert médical, on est d'accord? Eh bien, pour les enfants de moins de 18 ans, 17-18 ans, qui sont dans un contexte de schizophrénie à début précoce, on ne propose rien. Donc du coup, on va déménager. On va partir à 800 km. Moi, je suis OK pour être l'aidante de mon enfant. Je veux dire, je suis à ma place de mère. Par contre, je ne suis plus et de moins en moins OK pour être l'aidante des services sinistrés et des carences des politiques qui n'agissent pas, parce qu'il y a quand même une volonté à ne pas agir au point où on en est. Il faut quand même savoir que moi, j'ai dû abandonner mon travail quand même pour m'occuper de mon enfant, puisqu'il n'y a pas d'offre de soins et de lieux adéquats pour soigner mon fils. Et moi, j'aimerais que le gouvernement m'explique pourquoi ces freins, pourquoi on ne met pas d'argent dans la psychiatrie, pourquoi on n'évalue pas ce qu'on fait de l'argent qu'on a mis dans la psychiatrie. Je veux comprendre.
Appel en cours.
prise en charge des jeunes n'est pas l'apanage des seuls grands centres hospitaliers.
Vous êtes à l'hôpital de jeunes et adolescents ?
On vient pour le reportage.
Oui, je vous ouvre.
Merci.
Dans le sud-ouest, Daniel Messager s'est rendu à Agen.
Porte ouverte.
La Candélie, le centre hospitalier départemental, accueille notamment les jeunes en souffrance dans le service du docteur Tandonnet.
Là, c'est une consultation en urgence qui m'a été demandée par sa psychologue, référente du service, puisqu'il y a eu une crise, on va dire, en ce moment. Ça, et donc, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et donc, on va faire connaissance et essayer de voir qu'est-ce que je peux t'apporter, du coup.
Daniel Messager assiste au début d'une consultation.
Et alors, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'amène à venir ici, là, un peu en urgence, qu'est-ce qui vous a inquiété avec Ethel, avec ta mère
J'ai plusieurs tentatives de suicide.
Ouais. La dernière, elle remonte à 15 jours, c'est ça?
Oui, je crois.
T'avais pris des médicaments?
Oui.
Explique-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené à ça?
Je sais pas, le trop-plein. Il y en avait eu avant, un sixième. On me tapait, on m'insultait, on m'a rabaissé.
C'est quelque chose qui avait commencé juste en 6e ou ça existait avant?
Ça existait en CM1, CM2.
Il y avait d'autres choses, je dirais, qui te posaient problème ou qui t'ont amené à souffrir en dehors de cette violence à l'école de la part de tes camarades?
Mon père.
Oui.
Je le vois plus. Longtemps. Enfin, je le vois une fois tous les 1 an, 6 mois, quoi. Quand j'étais plus petite, c'était normal, enfin une relation père-fille. Je le voyais une fois tous les un week-end sur deux, quoi. Puis j'ai grandi, s'est mis avec une femme et cette femme, elle était méchante, violente avec moi et dès que mon père est parti au travail, je vomissais, je pleurais, j'avais des plaques partout.
T'as continué d'aller chez lui même s'il y avait cette violence de cette femme?
Oui.
Et depuis qu'elle est partie, comment ça se fait? Ils se sont séparés? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils se sont séparés.
Et t'en as reparlé avec lui de ce qui s'est passé?
Non, personne ne le sait.
Personne ne le sait? Est-ce qu'elle faisait ça en son
absence? Quand il était au travail.
D'accord. Et là, on parle dans le cadre d'une certaine confidentialité, mais à mon avis, ce sera quelque chose à un moment que c'est important que ta mère comprenne ce qui s'est passé. Pour qu'elle puisse t'aider, t'accompagner, à mon avis. Je suis pas sûr que garder tout ça pour toi, ce soit le mieux pour toi. Ok? Quand on parle de tout ça, ça amène beaucoup de manifestations au niveau du corps. Hein. Mm-hmm. Et une éruption cutanée au niveau de la main, et puis c'est vrai qu'il la démange beaucoup.
Sophie a des choses un petit peu intimes à raconter. On va s'éloigner un petit peu pour laisser la consultation se poursuivre. Et on va voir sa maman qui attend un petit peu plus loin avec qui on va parler deux minutes. Vous êtes venue en consultation d'urgence, je crois, avec Sophie.
Parce qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Voilà. Donc il y a aussi ce confinement qui a déclenché tout ça pour le premier. De rester aussi longtemps à la maison, ça a été très difficile. Bon, moi je travaille chez les personnes âgées, donc je suis mère célibataire, donc c'est difficile. J'ai dû la laisser aussi toute seule. Voilà. Quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait les médicaments, et puis elle n'était pas dans un état normal.
Et selon vous, en dehors du confinement que vous évoquiez, il y a des raisons personnelles, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails.
Il y a aussi son père. Voilà. Son père qui ne vient quand il en a envie. En plus, bon, malheureusement, là, il est alcoolique, il est dans la rue, il a perdu son travail. Tout ça, ça a eu des effets. Voilà.
Et dans son collège, ça se passe comment?
Harcèlement aussi, depuis la 6e. Et puis, les enfants sont durs entre eux. Il y en a un dernièrement, il lui a dit « T'es tellement grosse que... » On n'arrivera pas à te rentrer dans le cercueil. C'est que des trucs comme ça.
C'est violent.
Oui, c'est très violent. Oui.
Et voilà. Vous êtes intervenu auprès de l'établissement pour faire ces essais ?
Mais d'ailleurs, aussi, c'est grâce à eux si on en est là aussi, parce qu'ils nous ont orientés vers madame l'infirmière et la centre sociale du collège. Il n'y a rien à dire. Parce que la psychologue, le problème, c'est que c'est une fois tous les 15 jours. Elle est en pleine adolescence, elle va sur 14 ans. Donc moi, je pense qu'une fois tous les 15 jours, ce n'est pas suffisant. Et donc, voilà, moi, je veux qu'elle se fasse soigner, je voudrais qu'elle s'en sorte, quoi. Ici, c'est le dernier recours. Il n'y a que ça. Moi, je suis démunie, hein, j'y arrive plus. Donc, je fais tout, mais j'y arrive plus. Les bras, là, dernièrement, c'était au couteau, hein. Elle a des balafres de partout. Non, non. Moi, j'aimerais bien qu'elle s'en sorte.
Pour certains jeunes, une hospitalisation est indispensable. Avec Patricia Gesselin, cadre supérieur de santé,
bonjour, mesdames.
On visite l'unité.
Là, on a une série de 9 chambres, que des chambres individuelles, avec une salle de bain. Donc là, les conditions d'accueil restent dignes, comparé à certains services.
Ah oui,
là,
la chambre,
voilà, ils ont tous une chambre.
Elle est colorée, voilà. Elle est claire, elle est assez spacieuse. Elle donne sur un jardin. Là, c'est fleuri en ce moment. Effectivement, la chambre, ça demeure une chambre d'hospitalisation.
C'est
mais
ça.
Elle est plutôt agréable.
Tout à fait, tout à fait. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Tu peux nous présenter ta chambre?
Donc ça c'est ta chambre, Jonathan. Oui. Qu'est-ce que tu as emporté avec toi ici? Des doudous, un peu des vêtements. Et des doudous? Il y en a beaucoup de doudous? 5. 5, hein, ok. Et il fallait qu'ils soient avec toi, forcément. Oui. Tu ne les laisses pas. Oui. Merci.
Les enfants ici prennent, les jeunes ici prennent tous des traitements, très souvent.
Très souvent. Alors, l'hospitalisation est l'occasion de mettre en place un traitement, souvent, ou de le réévaluer. La difficulté qu'on a, c'est de maintenir l'observance du traitement à l'extérieur. Et donc, on travaille beaucoup sur l'acceptation du traitement. Les médecins, ils travaillent beaucoup.
Par eux et par leur famille, parce que...
Tout à fait.
Il y a peut-être des...
C'est souvent... Alors, très souvent, les ados, ont testé le fait... que ça les apaise quelque part, mais pour les adultes qui les entourent, tout adulte confondu, c'est compliqué. Se dire, voilà, mon gamin ou l'ado que j'accueille en famille d'accueil prend déjà un traitement, qu'est-ce que ça va être demain et qu'est-ce que ce traitement lui fait aujourd'hui en termes d'accoutumance, alors que, il y a plein de traitements où on ne s'accoutume pas, où c'est un moment de leur vie où ils ont besoin de ce traitement-là, et puis on l'arrêtera plus tard. Ah, il y a la clé de rien.
Pardon.
En termes de comportement, ce matin, elle a participé à l'atelier chant. Mmh. Pas de plainte somatique, pas de douleur.
Elle a la couleur, pas sur les cheveux.
Oui.
Mais oui, c'est qui l'a fait ?
On ne sait pas.
Mais c'est plus sobre que ce à quoi on s'attendait.
Oui, c'est les pointes, juste. On a réussi à la driver pour que ce soit les pointes. Mais nickel.
La 2, ta personne, c'est ma tante. 3. En fait, hier, on avait commencé à aborder le fait qu'oui, effectivement, il y avait des vomissements qui étaient provoqués. Sur l'instant, elle a plutôt dit que c'était des choses qu'elle ne contrôlait pas, dans un truc un peu d'angoisse. Donc ce que disait Sarah, c'est qu'il serait intéressant qu'en fait, elle ne reste pas seule avant les repas et surtout après, parce qu'en fait, c'est là que les moments d'angoisse sont les plus présents et qu'elle puisse se mettre avec le groupe, pas seule, isolée dans sa chambre.
Après, on peut fermer sa chambre aussi. Non, mais c'est là, c'est le côté occupationnel.
Ouais, c'est dans l'occupationnel, en fait.
Ok,
voilà pour elle. La 5.
Il est arrivé hier matin.
Qu'est-ce qu'il a fait avec son moi? Je ne l'ai pas vu depuis un an.
Alors, quelle est.
Hétéro-agressivité,
violence.
Menace, parce qu'elle a quand même essayé de.
À vue visuelle, verbale, auditive, vraiment.
Des propos.
Ouais.
Est-ce qu'elle passe à la lave?
Avec quoi?
Un couteau.
L'indication d'hospitalisation, et on va dire le panel est large, hein, ça va en effet des hospitalisations séquentielles d'adolescents qui sont suivis, connus, qui viennent ici un peu en séjour de répit, des émergences de pathologies à l'adolescence, c'est-à-dire des adolescents qui ne sont pas du tout connus de la pédopsie,
et qui développe des troubles à l'adolescence avec tout ce qui est anxio-dépression, des entrées dans les troubles psychotiques avec ce qu'on appelle tout ce qui est à haut risque psychiatrique, hein, voilà, les dépressions de l'adolescence avec des jeunes filles. Je dis jeunes filles parce qu'actuellement on a eu beaucoup de jeunes filles qui ont certainement beaucoup moins supporté le fait d'être enfermées à la maison avec leurs parents et surtout en coupant les liens avec tout leur environnement amical. Et on a eu beaucoup là d'hospitalisations pour tentatives de suicide. Des jeunes qu'on va repérer parce qu'ils se déscolarisent beaucoup, qui restent reclus à la maison, qui perdent toute relation avec leur environnement. Et donc, il faut leur réapprendre à être en relation avec les autres, les pères, les adultes, la société.
Et voilà. La durée moyenne d'hospitalisation dans cette unité, c'est
3 semaines à peu près. On va peut-être passer dehors. Donc voilà l'espace extérieur.
Mais c'est très fleuri, il y a une grande pelouse, des arbustes, un bois qu'on devine un petit peu plus loin. Donc c'est vrai que c'est un environnement agréable. Là, tout est fleuri en plus et tout est vert. Donc les jeunes qui sont ici ont accès à cette partie de pelouse et de jardin.
Sous surveillance, voilà, parce qu'il y a aussi un accès à la rue. Alors on croise les doigts, mais je ne sais pas si on a très peu de fugues dans le service, mais c'est arrivé.
Beaucoup de jeunes affectés, peu de médecins, c'est à une charge très lourde que doit faire face le docteur Louis Tandonnet.
On représente deux pôles, un pôle enfant 0-12 ans et un pôle adolescent. Si on prend le cas des adolescents, on va rencontrer 2000 patients par an, soit plus de 10 000 actes sur tout le département. Et il y a 1,6 équivalent en temps plein de médecins pour réaliser cette tâche. Voilà, et je parle là des médecins, mais il y a des manques sur d'autres professions. Je parle d'orthophonie, infirmiers.
Mais ça veut dire que ce sont des postes qui n'existent pas ou ce sont des postes qui sont vacants?
Ce sont des postes vacants. C'est par exemple, là, pour les adolescents, on a normalement 4 temps pleins. Et donc là, il y en a 1,6.
On a défini 4 temps pleins, ça veut dire qu'il y a des besoins pour ça. Comment on fait pour répondre aux besoins avec 4 fois moins de personnel et de médecins et de soignants?
Je dirais que tout le monde fait des efforts. D'abord, les patients, ils attendent plus.
La moyenne d'attente, c'est quoi, par exemple?
Les gens qui ne sont pas définis comme prioritaires, mais qui auraient pourtant une indication à rencontrer un pédopsychiatre pour, par exemple, un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention, je prends cet exemple, qui nécessite une mise en place d'un traitement médicamenteux, par exemple, n'étant pas prioritaire, d'attendre peut-être de 4, 5 mois, 6 mois.
Donc ce trouble qui déjà l'handicapait, voilà, il va s'aggraver forcément au bout de 4, 5, 6 mois.
Voilà, le risque c'est qu'il y ait eu un épuisement parental, un épuisement de l'équipe éducative, qu'il y ait un décrochage scolaire et des comorbidités, il y a par exemple des consommations toxiques, un épuisement de l'enfant aussi dans ses efforts à poursuivre sa scolarité.
Et comment vous expliquez cette vacation des postes? C'est une spécialité qui n'attire plus, vous l'expliquez comment, qu'il y ait autant de postes vacants?
Il y a très clairement une non-formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, en 2017, il y avait 1700 pédopsychiatres sur le territoire français. Aujourd'hui, il y en a moins de 500. 80% de ces 500 ont plus de 65 ans. Donc c'est mathématique, les postes ne seront pas pourvus. Le numerus clausus a été trop resserré.
Mais ça veut dire qu'on crée des générations de jeunes qui ne sont pas soignés ou qui ne sont pas soignés à temps, c'est ça ce que ça signifie?
Très clairement, oui. Et qui vont rentrer dans des maladies chroniques évitables. Voilà. Donc c'est dramatique et voilà, on peut dire que voilà, on manque d'une politique de santé publique sur la pédopsychiatrie. Une politique de santé publique, je dirais, adaptée aux réalités. C'est-à-dire, par exemple, ici, localement, on sait que dans les 10 ans à venir, on n'arrivera pas à faire venir de pédopsychiatres du fait du manque d'attractivité du département. Et on n'imagine pas des solutions adaptées, comme des pratiques avancées. Par exemple, on a des infirmiers qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de qualité, qu'on pourrait mettre sur des formations qui leur permettent de compenser une bonne partie de ce que peut apporter un pédopsychiatre.
Et pourquoi on ne fait pas ?
Je pense qu'on manque d'imagination et on manque de prise en compte de la réalité, c'est-à-dire qu'on nous propose de chercher à remplacer des postes, par exemple, de médecins, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas possible.
Interception sur France Inter.
Nous venons d'arriver au foyer Balade où sont placés les adolescents qui nécessitent d'être un moment sécurisés dans cet endroit. C'est situé au milieu de la campagne, un vieux bâtiment. On va être accueillis par Sarah, l'infirmière, qui va nous emmener rencontrer ces adolescents. Conseil général du Lot-et-Garonne, voilà, on entre dans ce foyer Balade au milieu de la verdure, des sapins. Bonjour. Un vieux bâtiment. C'est joli.
Oui, c'est joli.
On dirait une ancienne maison de maître un peu. Là, on vient de s'installer dans une pièce pour faire... Alors, c'est quel type d'atelier, Sarah ?
C'est un atelier d'écriture.
Atelier d'écriture. Et il y a combien de participants ?
Alors là, sur cette séance, il n'y a que Fédani. Et là, on est en train de... Enfin, on essaye d'écrire un livre, donc elle est en train de créer un personnage qui s'appelle Moïra.
Moi, je suis Sarah Brazorotto et je suis infirmière sur l'équipe mobile du Réséda. Pour proposer un accompagnement aux jeunes qui ont des difficultés psychiques, voire psychiatriques.
Il y a de moins en moins de pédopsychiatres, il y a des postes qui ne sont pas pourvus, et il faut que la fonction de l'infirmier en psychiatrie se développe. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi ?
Oui, parce que des fois, vous êtes dans un service de soins, mon bel médecin, vous le voyez une fois par semaine. Il faut que quand vous le voyez une fois par semaine, voilà, il ait tous les éléments de tout ce qui s'est passé.
Et vous êtes assez nombreux pour faire ça ? Il y a des postes vacants et ça pose des problèmes dans la prise en charge ?
Assez nombreux, je pense pas. Parce que moi, je le vois dans mon quotidien. Ce qui me manque beaucoup, c'est le temps. Il y a des jeunes avec qui je voudrais passer plus de temps et je peux pas passer plus de temps avec eux. Là, par exemple, pour l'équipe mobile, on est que deux sur tout le département. Donc, quand vous comptez les temps de trajet, voilà, c'est...
Et du coup, vous suivez combien de jeunes ?
En tout, toutes les deux, je pense qu'on a une soixantaine de prises en charge.
Être infirmière en psychiatrie, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir, sachant que ce n'est pas forcément une spécialité qui est très recherchée ?
Au départ, j'ai fait infirmière pour être avec les personnes, pour le côté humain. Et je ne retrouvais pas du tout ça à l'hôpital général, où j'avais l'impression de faire du travail à la chaîne, finalement, et puis de ne pas pouvoir faire tout le travail éducatif, tout le travail d'accompagnement. Et je dirais que c'est plus ça qui m'a poussé vers la psychiatrie.
Et ces jeunes, vous pensez que vous parvenez à les réparer ?
Les réparer, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut avoir cette prétention-là. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est leur donner les armes de vivre avec. Je ne sais pas si on y arrive, mais on essaye.
Alors, donc c'est le début de l'histoire. Moïra était une jeune fillette hors du commun. Cela dit, la petite fille, âgée de 16 ans, avait une maladie qui la rendait différente des autres adolescentes de son âge. Suite à sa dure enfance, Moïra a souffert d'anorexie et de boulimie. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fidani, donc j'ai 16 ans et puis je vis sur Agen. Donc j'ai fait une dépression, de l'anorexie et puis j'étais hospitalisée depuis le 1er janvier 2021 du coup.
Pourquoi vous avez été hospitalisée ? Vous étiez tellement mal à l'époque que vous ne pouviez plus rester dans votre milieu ?
Oui, voilà. Et puis ma mère, ça s'est très mal passé, une embrouille. Et ça ne va plus, elle m'a tapé. Du coup, j'ai été placée au foyer d'urgence à Balade.
Vous ne voulez plus de toute façon revenir dans votre milieu familial ?
Non, parce qu'aussi bien d'un côté ou de l'autre, ça s'est mal passé. Donc je préfère attendre l'âge adulte pour avoir mon appartement et puis avoir ma propre liberté, on va dire, de vivre et d'avancer toute seule.
Depuis que vous êtes ici, comment vous vous sentez et comment on s'occupe de vous ?
Bah là, ça va mieux. On me propose des activités comme sortir, me promener, faire des jeux de société. Comme Sarah, elle vient deux fois par semaine.
Sarah, c'est l'infirmière.
L'infirmière Sarah, ouais, elle vient 2 fois par semaine pour me proposer des activités. Et ça, ça me fait du bien, ça me permet de voir autre chose et puis de sortir de la dépression. Parce que c'était pas facile au début, hein, mais ça va mieux, donc ils s'occupent bien de moi là-dessus. Donc après, j'ai un psychiatre que je vois une fois par mois pour lui parler de mes soucis que j'ai.
Qu'est-ce que, sans rentrer dans l'état évidemment, mais qu'est-ce que ça vous apporte de parler à un psychiatre ou à un psychologue ?
Ça m'a aidé à un moment donné, quand j'étais vraiment pas bien, il m'a beaucoup aidé quand même, le docteur que j'ai. Hein.
Comment vous vous imaginez dans votre vie d'adulte ? Vous avez déjà une idée de ce que vous voudriez faire ?
Comme métier plus tard, j'aimerais bien faire du coup soit infirmière, soit psychiatre. C'est le fait aussi de pouvoir donner aux autres ce que j'ai pas eu. D'être écouté quelque part. Puis d'aider les gens à aller mieux, d'aller vers le haut en fait.
Psychiatrie, la grande oubliée de la médecine française, c'était un reportage de Daniel Messager. Prise de son Fabien Gosset, Thomas Robine et François Rivalan.
C'est quoi ça ?
Un magnétophone.
Quelle caméra ?
C'est la radio.
Est-ce que je peux voir la radio ?
Tiens. Là, tu vas t'entendre.
Oui.
Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage d'Ophar Guérid.
Tu veux le casque ?
Oui.
Tu peux la tenir, la perche ? Comme ça que je mets le casque.
Oui.
Super.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir,
merci.
Au revoir.
Quelques instants, rendez-vous avec Eva Bester et son invité, l'écrivain Benoît Peters, pour Remède à la mélancolie.